franceinter.fr.
Bonjour à tous. En ce premier jour de l'année, nous vous proposons de réécouter un reportage diffusé le 8 mai dernier, Casamance, le temple du solaire. L'usage de l'électricité nous paraît si banal qu'on reste parfois étourdi devant les chiffres qui viennent d'Afrique. 2/3 des habitants du continent n'ont pas le courant dans leur foyer, plus de 600 millions de personnes. La situation paraît d'autant plus anachronique que ces dernières années, l'accès au courant ne se résume plus à la construction pharaonique de centrales électriques et de réseaux filaires interminables. Aujourd'hui, des solutions plus légères existent, dont une paraît tellement naturelle en Afrique, le recours à l'énergie solaire. Des lampes, des batteries, des panneaux, des centrales solaires pour les productions plus importantes. Les énergies renouvelables sont-elles l'avenir de l'accès à l'électricité en Afrique ? Elles sont en tout cas un espoir pour les populations. Interception a choisi de se rendre au Sénégal, où plus de la moitié de la population n'a pas l'électricité. Béatrice Duguay et Jean-Marie Porcher se sont rendus en Basse-Casamance, dans le sud-ouest du pays. Ils ont quitté la capitale provinciale Ziguinchor en pirogue. Voici leur reportage, Casamance, le temple du solaire.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous voici à New Moon, arrivé après presque 4 heures de pirogue, soleil de plomb, et pour nous accueillir un relais de téléphonie mobile qui a été installé il y a quelques temps. Donc ça veut dire qu'ici on communique à fond, sans électricité ou sans beaucoup d'électricité, mais ça va venir.
Bonjour.
Comment vous vous appelez ?
Grégoire. Oui.
Grégoire, vous êtes pêcheur ?
De temps en temps.
Vous habitez où ? Dans quel quartier ? Ici à Niomou ?
Essamou, c'est là-bas, au fond là-bas, à 500 mètres de vol d'oiseau.
Vous n'avez pas d'électricité et de lumière encore ?
Ah, nous serons les derniers après. On va marcher à pas de caméléon, mais ça va marcher très bien. N'est-ce pas? Ici, nous habitons dans une zone halieutique.
De pêche?
Ah oui, une zone de pêche. Alors, il y a vraiment nécessité qu'il y ait une énergie forte, capable de prendre une télévision, parce que les jeunes en ont besoin, et aussi les vieux en ont besoin, parce que c'est les médias qui ouvrent l'île vers d'autres horizons. Tout ce qui se passe partout, un peu partout dans le monde, on est au courant.
Oui. De quoi avez-vous besoin d'autre que la télévision ?
C'est le frigo surtout. Oui. Pour moi, je peux dire que la télévision, c'est en deuxième position. Oui. Il faut d'abord le frigo. Lui, en tant que pêcheur, s'il prend un capitaine comme ça, donc il sera obligé de le distribuer, donner ça bénévolement comme ça, parce qu'il ne peut pas le garder 2 à 3 jours. S'il le garde comme ça, ça sera pourri. Alors, s'il avait son frigo ici, il prend un capitaine ou bien un brochet. Il met dans le frigo. Au moment opportun, il enlève, il embarque sur les Ziguinchor. Au moins, il revient avec 30 000 francs. Oui, c'est nécessaire. Hein? Oui, ça aussi, ça fait lutter contre le chômage. Les jeunes s'en vont ailleurs. C'est parce que dans le village, il n'y a rien. Alors, s'il y a des moyens nécessaires, ils peuvent rester. Oui. Mais à l'heure actuelle, si tu vas dans le village le plus reculé du Sénégal ou de la Casamance, un peu partout, l'île la plus reculée, il y a de l'électricité. Mais pourquoi pas nous? Quand tout le village sera électrifié, on dira enfin. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Merci beaucoup.
Adélaïde, qu'est-ce que vous faites en ce moment?
En ce moment, je suis en train d'étaler le riz. Il ne faut pas le laisser comme ça en tas.
Pour qu'il sèche?
Ça, c'est un appareil, ça?
C'est un micro, ça.
Ça vous embête?
Au micro, un journaliste. D'accord. Moi, c'est Denis Yata.
Denis Yata, et votre femme?
Solange Yata. Tu disais?
Je disais, vous êtes dehors avec le feu jusqu'à ce que la nuit tombe vraiment.
Oui.
Et après, vous rentrez?
Oui, on allume la lampe là. Quand il commence à faire sombre, oui, là, on allume. Non, c'était, elle est solaire, tempête solaire. Elle est même au soleil. Oui.
Alors, donc, c'est une lampe tempête solaire, c'est-à-dire qu'il y a un petit panneau solaire sur le dessus. Elle est en plastique. Probablement pas des LED à l'intérieur. Elle est rouge, flambante, plus neuve, parce que manifestement, elle a dû tomber un tout petit peu. Et c'est, vous éclairez toute la maison avec cette seule lampe-là?
Avec celle-là, oui.
Voilà. Combien de temps ça tient en lumière?
2 heures de temps.
Et le lendemain, vous la remettez dehors?
Au soleil.
Pour se recharger.
J'ai une grande famille, celle-là ne suffit pas. Hein. Il suffit des fois pour étudier, ils font. Les petits commencent tôt, après ils vont dormir, ceux qui ont collège là, continuent avec eux. À 5h du matin aussi, ils se lèvent pour compléter les.
Donc ils se relaient autour de la lampe, c'est ça?
Oui. Des fois, quand ils sont en composition, quand ils ont un programme serré, on est obligé de chercher des bougies pour les cuire.
Et vous, du coup, vous n'utilisez pas cette lampe-là, vous, adulte?
Nous, on a une petite torche là. On le branche au CM là-bas, à la mission.
Ah voilà, la petite lampe bleue. Alors là, c'est une lampe torche traditionnelle. Torche, oui. Voilà. Et donc, vous allez à la mission là-bas et vous la branchez. Et ça tient combien de temps, une petite lampe comme ça, torche?
Comme ça, à peine. Si on l'allume, parce que c'est, on ne l'allume pas continuellement. Hein.
Si vous voulez, oui. On est en train d'entrer dans une pièce qui est évidemment très sombre. Et ben voilà, la lampe tempête est allumée, celle qu'on a décrite tout à l'heure. Et puis, il ne fait pas tout à fait nuit encore dehors, mais effectivement, ces pièces qui sont fermées parce qu'il faut pouvoir résister à la très grande chaleur aussi, donc ça maintient de la fraîcheur. En revanche, évidemment, c'est assez peu lumineux. Donc là, on voit bien que la lampe tempête, elle éclaire qu'un tout petit peu, un petit coin dans la maison, un petit coin de table, et que les pièces à côté sont totalement sombres. Dehors, il fait encore un peu jour. Il y a la petite cuisine qui est sur le feu, la marmite. Il faut avoir des bons yeux quand on vit chez vous. Des yeux de chat.
Ah oui, c'est ça, comme tu l'as dit. Oui.
Avec la lampe tempête et l'autre, plus les torches, ce sont des moyens rudimentaires. Le mot exact pour qualifier tout cela. Merci beaucoup.
Okay, merci.
Bonne fin de soirée, merci, à vous. Merci, bonne nuit.
Okay, merci
bonne
beaucoup.
Bon appétit. Là, on va faire tout doucement, parce qu'on est en train de s'inviter chez Alphonse, le maître d'école, qui a la lumière chez lui, l'électricité, et qui de temps en temps donne des cours du soir à quelques-uns de ses élèves, donc fatalement avec la lumière, ça va tout de suite mieux.
Donc, dans une station d'essence, un pompiste a rempli 17 réservoirs de voitures. 17 réservoirs de voitures. Il en a rempli combien? 17 réservoirs. C'est quand? Il a rempli 17 réservoirs quand?
Le matin.
Depuis le lever du jour jusqu'à midi. Donc, disons, on peut commencer à partir de 8h jusqu'à midi. C'est ça ce qu'on peut appeler le matin. Est-ce que c'est seulement ce qu'il a vendu? Il a rempli combien encore de réservoirs?
Qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir de l'électricité et de la lumière dans votre maison?
Ben, la lumière pour nous, c'est, ça signifie grand-chose. Sans lumière, les journées sont écourtées par le simple fait que dès que le jour tombe et qu'il n'y a pas de moyens pour s'éclairer, on arrête toute activité. Mais dès l'instant qu'il y a de la lumière qui permet aux gens de pouvoir poursuivre leurs activités, alors on a l'impression que les journées s'achèvent que quand on est fatigué. Mais avant, puisqu'il fallait payer le pétrole, et après le pétrole, les lampes électriques, les lampes à pétrole par exemple, les bougies, bon, c'était pas trop pratique, parce que quelque part, avec les bougies, quelque part, il y a des incendies qui survenaient, parce que soit qu'on avait allumé sa bougie, qu'on travaillait, son élève qui travaillait, et qui se couchait sur son cahier, finissait par se réveiller à la suite de cris.
C'est arrivé.
Et donc, voilà pourquoi la lumière, je crois que si elle est à la portée de tout le monde, va changer beaucoup. Auparavant, nous sommes restés dans les promesses d'une installation électrique qui a avorté à plusieurs reprises. Il y a bientôt 20 ans que nous sommes dans l'attente de ce 99. Alors, nous sommes restés vraiment impatiemment à l'attente de cela, sans trop y croire. Donc chaque équipe venait promettre, et bon, c'est comme ça. Le premier projet est arrivé, c'était un projet, je crois, anglophone du nom de Wame, West African, je ne sais pas. Et comme Nyomoun, à l'époque, était le plus gros village parmi les villages, les îles de la Basse-Casamance, Nyomoun devait être l'île test. Ils sont partis au mois de novembre. Normalement, Noël de 99 devait trouver le village tout électrifié. Et 99 à nos jours, on est presque à 17 ans. 17 ans, c'est une génération, c'est un enfant qui est né et qui se retrouve aujourd'hui à l'université, durant lesquels le village est resté à l'attente de quelque chose qui n'a jamais éclos. Parce que quand une poule pond ses œufs, c'est pour arriver à pouvoir mettre quelque chose. Et nous sommes là, jamais en train de couver nos œufs, nos espoirs, et jamais avoir un résultat. Et aujourd'hui, on est en train de voir qu'il ne s'agit plus de croire que ça va venir, mais de voir que c'est une réalité.
Le Sénégal table sur un accès au courant universel pour tous les villages en 2025. Mieux, dès la fin de l'année prochaine, et grâce au plan de l'ASER, son agence d'électrification rurale, l'État vise un taux ambitieux de 60% de foyers électrifiés dans les campagnes. Pour cela, la Sénélec, l'équivalent d'ERDF en France, continue d'étendre le long des routes ses pylônes et ses fils alimentés par les centrales au fioul. Mais pour atteindre les nombreux villages isolés, le Sénégal mise aussi, logiquement, sur le développement du solaire. Il a concédé à 10 entreprises le soin de faire naître et d'entretenir des mini-centrales photovoltaïques, des panneaux solaires individuels ou des lampadaires collectifs.
Je suis à vous.
Omar Bailadaf, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes le directeur des concessions de l'agence sénégalaise pour l'électrification rurale, l'ASER. Venez, on s'installe.
Merci.
Le temps de discuter un tout petit peu. Est-ce que c'est pour l'État sénégalais, Omar Daf, un moyen de réduire la facture énergétique, ce développement solaire?
Les centrales au fioul ont aujourd'hui, même si la réalité n'était pas évidente il y a plusieurs années avant, il y a des coûts d'exploitation qui sont très chers. On connaît aujourd'hui le coût du diesel. Des 10 dernières années ont connu une hausse vertigineuse, ce qui ne rend pas viable des types de technologies qu'il était il y a 10 ans. Donc pour nous, il nous faut trouver des solutions alternatives qui peuvent passer soit de l'hybridation de ces types de technologies-là, de ces systèmes que nous avons mis en place, ou tout bonnement, dans les nouvelles électrifications, de faire un choix qui doit être orienté suivant la position des villages que nous voulons atteindre. Si c'est des villages proches du réseau, nous mettons en œuvre l'extension du réseau. Mais si c'est des villages éloignés du réseau, naturellement, les énergies renouvelables deviennent la technologie la plus adaptée. Et ça, le solaire en joue une partie très, très, très importante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets solaires que l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre. Il ne s'agit pas uniquement de faire accéder ces populations-là aux services d'électricité, mais c'est plutôt de les maintenir et que ça soit aujourd'hui un acquis en renforçant un peu la capacité qu'on mettra en œuvre pour augmenter ses besoins. Parce qu'on se rend compte que quand l'électricité arrive dans un village, les besoins augmentent et les gens deviennent de plus en plus exigeants. L'exemple typique, c'est des villages où vous arrivez avec des services d'accès et vous vous rendez compte quelques mois après que les gens ont besoin de mettre des usages productifs dans leur maison. Et en rythme des fois qui dépasse même les prévisions. Et ça, j'avoue que le potentiel est là et il faudrait juste faire accéder et nous vous enverrons les résultats.
Bonjour.
Nous sommes rendus dans le royaume d'Enampor. Donc là encore, intéressant de voir comment on amène de l'énergie pour créer de l'activité. On est littéralement en pleine brousse dans le delta de la Casamance, à une grosse demi-heure, trois quarts d'heure de route de Ziguinchor. On est au milieu de fermes, d'animaux, de vaches, cochons couvés, et des baobabs, des manguiers, quelques cases et manifestement effectivement des installations solaires diverses. On y va. Alpha Barry, vous êtes donc l'installateur de l'électricité, de la ressource électrique, on va dire, dans ce village-là, de Séléki, si j'ai bien compris.
Voilà, je vais vous montrer un système AGL, qu'on appelle activité génératrice de revenus. J'ai constitué d'un congélateur solaire de 240 litres, modèle Steka.
Dans le congélateur, c'est quoi, un petit débit de boisson en fait?
Oui, il congèle la boisson, mais il y a aussi des produits halieutiques, parce qu'on est presque vers la presqu'île. Et là, ils font de la production de crevettes et de poissons, et souvent ils parviennent à conserver ces produits halieutiques dans ces congélateurs pour leur permettre de pouvoir commercialiser ça d'ici Ziguinchor.
Vous êtes donc installateur. Votre contrat, c'est quoi avec l'AZER, l'Agence de développement rural, d'électrification rurale?
Non, ici, je me considère comme un opérateur. J'assure le suivi technique, j'assure l'exploitation commerciale. Donc, je suis un mini-concessionnaire, un opérateur de ce projet. Cette concession, elle est composée de 7 villages. On a installé des solar home systems.
Ça se traduit comment? Avec un mât et un panneau
solaire? Oui, il y a un panneau solaire sur mât. Ou bien sur façade, plus un régulateur, une batterie et un réseau de lampes, comme une installation électrique classique. Sur ce projet, il a été prévu 350 solar home systems, 30 lampadaires dans les 7 villages, 22 systèmes communautaires et éventuellement 14 systèmes AGR répartis en moulins des activités génératrices de revenus et en les alimenter avec des systèmes solaires.
Alors, le réseau de la CNLE qui vient jusqu'où ici? Parce que la route, elle n'est pas si loin d'ici et c'est impossible d'amener l'électricité, la ligne électrique jusque-là?
Non, ce n'est pas impossible d'amener la ligne, mais il y a des contraintes pour une électrification avec le réseau de la CNLE parce que les gens ici habitent d'une manière dispersée. Donc même si vous amenez le réseau, vous n'allez pas toucher les trois quarts de la population. Il y a un noyau le long des routes, mais tout le reste habite dispersé.
Alors, on a vu l'équipement collectif pour les femmes, ce congélateur. On va essayer d'aller voir à l'intérieur d'une maison ou à l'extérieur d'une maison. Je ne sais pas ce que ça donne.
Ok, on y va. Voilà, c'est un projet en 2007, financé par le gouvernement du Sénégal, qui était un projet de 1000 lampadaires que nous avons eu à réaliser dans 7 régions du Sénégal et pour 110 villages.
Est-ce qu'il fonctionne?
Non, il ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème de batterie et il n'y a pas de maintenance.
Ah, ça, c'est un écueil quand même. Effectivement, on voit bien dans le premier développement de cette électrification rurale qu'il y a des petites failles. Hein.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est, voilà. Ici, c'est qui bat le niveau? Le niveau 1, niveau 2? Qu'est-ce qu'on a mis ici? Niveau 1, c'est 7 points lumineux. Il y a un autre ici, 2...
Ouais.
Dans les autres chambres aussi. 7 points lumineux, 7 lampes.
7 lampes,
ouais.
Là, vous voyez, nous avons conçu des caissons batteries. Comme les batteries devaient être installées dans les maisons, dans les chambres, on s'est dit, si la batterie explose ou implose, automatiquement, ça se passe à l'intérieur.
C'est les batteries à quoi ? C'est comme une batterie de voiture, en fait, non ?
Non. Ça, c'est des batteries acide, plomb acide, tubulaires, qui ont une durée de vie au moins de 7 ans. Depuis 2012, ça fonctionne. Et à chaque fois, le seul besoin, c'est de l'eau d'ici qu'il faut ajouter. Ça demande quand même une intervention répétitive au courant de l'année.
Comment se passe le paiement, la facturation ? Est-ce que c'est comme en France, par exemple, on reçoit, on est prélevé sur un compte en banque ? Comment ça se passe ?
Non, ici, il n'y a pas de prélèvement pour le moment.
Question naïve. Hein.
Le mode de paiement que nous faisons, chaque fin du mois, nous avons un agent de recouvrement qui vient et qui demande à l'usager de s'acquitter de sa facture.
Est-ce que les gens arrivent à prévoir à peu près leur facture d'électricité qui est fixe, hein, si je comprends bien ?
Mais du tout. Des fois, on a de sérieux problèmes. Vous venez dans un village, vous trouvez l'agent de recouvrement. Dès qu'il se présente, certains même n'hésitent pas à fermer leurs portes et partir. Et ça, ça nous pose d'énormes problèmes. Il faut que les gens puissent payer afin que le projet puisse être pérenne. Voilà.
Alors, on va ressortir pour laisser les gens tranquilles chez eux. Est-ce qu'il vous arrive de régler, vous, des petits contentieux sur des gens qui n'arrivent pas à payer, par exemple ? Est-ce que vous jouez les médiateurs, en quelque sorte, en tant que chef du village ?
Oui. Tu vas voir quelqu'un qui a des arriérés de mois, des mois, qui n'ont pas pu payer. Bon. Avec cet homme-là, on essaie de négocier à ce qu'on lui laisse toujours le panneau et pour qu'il s'en serve, pour qu'il paye doucement, doucement, doucement.
Est-ce qu'il est arrivé qu'on retire les installations ici dans le village ?
Rarement, rarement. Sauf ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. C'est eux qui demandent de les enlever.
Est-ce que vous comprenez ou est-ce que les gens du village comprennent que l'électricité, elle a aussi un coût ?
Si. Toute chose n'est pas gratuite maintenant. Mais seulement, moi, il faut amortir les coûts. Moi, c'est ça mon souhait.
Est-ce que vous-même, vous avez l'électricité chez vous ?
Oui.
Vous avez des soucis, vous aussi, pour payer de temps en temps ou pas ? C'est indiscret ce que je vous demande.
Bon, je me débrouille toujours. Je me débrouille. Des fois, quand je n'ai pas à payer, je négocie.
Donc, Alpha, vous êtes l'homme de bonne volonté, hein, parce que je comprends.
Je ne suis pas Père Teresa, mais je comprends le souci des populations.
Donc on sent bien que c'est difficile, il y a une volonté forte de faire accéder les gens à un système d'électrification, mais en même temps la population, elle a ses petites ressources, hein. C'est ça qui est compliqué dans l'équation.
Affirmatif, à chaque fin d'année de trésorerie, et l'État devrait pouvoir subventionner les sociétés d'électricité qui exploitent dans le monde rural, pour vraiment combler ce gap-là. Parce que sinon, on aura à exploiter à perte. Parce que ce n'est pas intéressant d'installer un système, le gars ne paye pas parce qu'il est pauvre, et vous dites, c'est injuste quoi, de venir enlever le système. Il peut avoir un fils qui paye pour lui, et le fils décède, par exemple. Ou bien le fils perd son travail, alors que lui, c'est un retraité qui n'arrive pas à joindre les bouts. Est-ce qu'on doit lui retirer l'électricité ? Non. On doit le comprendre, le soutenir. Donc, c'est pourquoi nous, dans notre modèle de business plan, il y a ce qu'on appelle le taux de créance irrécouvrable qu'on a prévu à raison de 15%. Vous allez me dire que c'est trop, mais on l'a prévu pour ce type de cas où la personne ne peut plus payer. Et ça arrive.
Je m'appelle Mobutu Diédou. Je suis coordonnateur d'un projet, un comité d'électrification solaire de Wung, CGZO. Donc, on a comme partenaire la Fondation Énergie pour le Monde, avec qui nous avons commencé à travailler depuis 2007. C'est finalement en 2011 que le projet s'est réalisé. Wung, c'est une commune qui fait une superficie de 23 700 hectares, qui a une population de 13 000 habitants. C'est une commune qui est à 50 km de Jigensor.
Au nord-est à peu près.
Oui, au nord-est. La commune fait 24 villages. Il n'y a que seulement le siège de la commune qui se trouve être Wung village qui a été électrifié par l'État. Mais maintenant, il y a eu 23 villages qui sont laissés en rade, qui n'ont pas été électrifiés.
Donc il faut les électrifier. Le système qui est retenu, c'est le système solaire.
Nous avons escalé 189 kits solaires. C'est un kit solaire qui est constitué d'un panneau. il y a un régulateur et une batterie, mais aussi il y a un convertisseur.
Pour le service de base, est-ce qu'on peut charger un téléphone mobile?
Oui, il y a des chargeurs qui sont adaptés, les chargeurs qu'on utilise au niveau des véhicules. C'est ça qui a constitué le problème au début du projet. Parce qu'au moment de l'étude du projet, nous n'avons pas tenu en compte des chargeurs des portables. C'est pour cela qu'il y a eu une surutilisation. Parce que vous vous rendez compte, dans une maison, tu peux trouver 2, 5, 6, 7 portables maximum. Ces portables ne sont pas des portables de qualité en général, ce sont des portables chinois. Là, toute une journée, les gens passaient à charger les portables. On ne peut pas utiliser en permanence la batterie. Il faut économiser la batterie. Nous avons dit aux abonnés, il faut laisser, pour la journée, laisser la batterie en charge. Et la nuit, vous pouvez utiliser. Mais il s'est trouvé que les gens, ils chargeaient en permanence. C'est pour cela, nos premières difficultés avec les batteries, après 2 ans d'utilisation, nous avons commencé à avoir des problèmes de batterie.
Il fallait les changer?
Il fallait les changer, mais vous savez que le projet a été conçu de telle sorte que c'est l'abonné, vu ce qu'il paye mensuellement, c'est à partir de cette somme-là que nous devons amortir le matériel. Et dans les études, ça a été dit que pour les batteries, c'est pour une durée de 4 ans. On avait du mal à payer des batteries. Dieu merci, après une longue discussion avec la fondation a pu nous subventionner une somme pour qu'on puisse renouveler les batteries, les systèmes qui avaient des problèmes de batterie. Mais nous aussi, au niveau du comité de gestion, nous aussi, nous avons contribué pour l'achat de ces batteries. Actuellement, nous traversons des périodes vraiment difficiles. Mais Dieu merci, actuellement, il y a une prise de conscience nette des populations que l'énergie n'est pas gratuite. Parce qu'il y a le suivi et l'entretien des systèmes.
Merci, Mobutu Diédio.
Merci, Béatrice.
On attend la lumière.
Vous êtes changé?
Oui, je me suis lavé, je me suis changé. L'autre tenue, c'est la tenue de travail.
Est-ce que la lumière le soir, c'est un rendez-vous?
Un grand rendez-vous.
Martine, elle est trop belle.
Un simple lampadaire solaire bardé de nouvelles technologies ouvre aujourd'hui des perspectives plus viables. Conçu par Suna Design, société de la région bordelaise, il fonctionne avec des batteries garanties 10 ans, des LED performantes. Il éclaire une place de village et produit assez d'électricité pour alimenter en plus un mini-réseau, un nanogrid de 4 à 5 maisons. 300 villages de la basse Casamance en seront équipés d'ici 2017, coût 10 millions d'euros. Village pilote, Nyomoun, au milieu des rizières. Service de base, 5 ampoules et de quoi charger un téléphone mobile. Pas de facture en fin de mois, mais du prépaiement pour des clients abonnés. Alors le cri de joie que vous venez d'entendre, ça ne se voit pas à la radio évidemment, mais c'est la lumière sur cette place du village qui vient de s'allumer. Il est un petit peu plus de 19h30, le jour a suffisamment baissé pour que la lumière s'active, les panneaux solaires ont chargé toute la journée. Et voilà, les enfants sont au pied du réverbère en train de s'éclater comme des petits fous. Les femmes, elles étaient quelques-unes aussi au pied de ce réverbère à attendre, elles ont applaudi un petit peu. Alors, c'est pas nouveau ici. Mais manifestement, tous les soirs, c'est un peu le rendez-vous de la lumière maintenant.
Tu as vu les enfants, ce que je t'ai dit? La fête au village. Tout le monde est content.
Vous l'attendez ce moment, le soir?
On l'attend tous, chaque soir. On attend la lumière. On reste ici jusqu'à l'heure de se coucher. Tu vas te coucher. Les femmes ici, les hommes là-bas. C'est joli, c'est voyant même.
Est-ce que vous vous souvenez du premier jour, ou du premier soir plutôt, où la lumière est arrivée?
Moi, j'étais en voyage, mais quand j'étais là-bas à Velingara, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une grande surprise chez toi. Quoi? Il y a la lumière. J'ai dit, quoi? J'étais tellement pressée de venir voir ma maison avec la lumière. C'est très content. Je l'ai appris.
Le soir, la vie s'arrête. Alors, il faut tout faire avec les torches et les bougies. C'est difficile, ça nous coûte très cher. Oh, yeah.
monsieur, parce que vous nous expliquez ce que vous êtes en train de faire, qui est en train d'installer, donc...
Oui, nous sommes en train d'installer. C'est la douille que j'installe comme ça.
La douille de l'huile des lampes ?
D'une des lampes, oui.
Donc avec des clous directement dans les solives ?
Oui, effectivement.
Alors le bois est un peu poreux, c'est frite, ça va, c'est... ça tient quand même ?
Oui, ça tient, oui. Ouais. Ok, c'est bon. Mais dès le tour de la fenêtre, on demande tout de même.
Je suis ravie de me présenter. Je suis Roque Diba, Madame Sam. Je suis un agent de commercial à Sud Solar System qui est basé à Ziguinchor. Et je suis présentement avec mon collègue Abdourahman. On est revenu hier pour continuer l'enrôlement et faire la collecte de la redevance initiale du quartier Essangoulou de Nioumou. Maintenant, Norbert, tu dis qu'aujourd'hui tu es venu, tu es inscrit.
Oui.
Ok. La redevance initiale. Ok. 20 000 francs. Merci. Ça, c'est vos 20 000 francs. Il faut bien le garder. Parce que tant que vous ne payez pas ça, vous ne pouvez pas avoir l'installation.
Ils sont là derrière. Quand ils viennent, ils terminent là-bas, ils seront chez vous.
Ok. Ils vont vous installer l'installation, l'intérieur, c'est-à-dire le circuit électrique. Mais à partir du mois de mai, vous aurez la mise en service. C'est-à-dire vous aurez votre courant. Et vous commencerez à payer vos cartes de crédit.
Oh, je suis content.
Ah, merci beaucoup. Vous êtes impatient. Merci. Merci. Merci
bien. C'est génial.
Merci.
Norbert, vous venez d'amener 20 000 francs CFA. Est-ce que c'est une grosse somme pour vous?
C'est à peine une grande somme. Parce que 20 000 francs, là où nous sommes là, en saison sèche, là, c'est une grande somme ouais, pour moi. Mais quand même, comme j'ai besoin du courant électrique, je me débrouille comme ça.
Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous êtes pêcheur?
Je suis un cultivateur. Mais je pratique aussi la pêche, je me débrouille aussi au niveau de la pêche aussi. Tu sais, quand je travaille, je peux gagner peut-être au moins par jour 1 000 francs. Je peux gagner par 1 000 francs. Je suis un débrouillard.
L'électricité, pourquoi c'est important pour Nioumoun, pour vous ici?
Bon, vous savez qu'on est enclavé dans une petite île. Bon, on voit tous dans les villes, il y a des villages qui sont électrifiés. Donc ici à Nioumoun, comme nous sommes dans un village loin de Ziguinchor, bon, nous voulons avoir de l'électricité. Nous pouvons voir à la télévision et voir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on est enclavé.
Comment vous chargez votre téléphone mobile pour l'instant?
Bon, je vois, il y a des gens qui ont des panneaux solaires. Bon, je me rends chez lui. Il y a d'autres qui ont des moyens de faire. Ils achètent des batteries. Bon, ils font leur système pour pouvoir charger. Si tu vas dans les autres villages, tu vois une maison qui a une seule télévision. C'est là-bas où les portables se rendent là-bas, on les met en ligne, à table. Il faut charger un par un, par un, par un.
On se débrouille.
On se débrouille comme ça, oui. Ça va changer parce que tu auras toujours ton portable plein.
Merci.
Merci. Vous savez comment?
Moi, je m'appelle Béatrice.
Béatrice. Enchantée, bienvenue dans ce village.
Merci beaucoup. Madame Sam, oui. Je sais que vous êtes commerciale, mais quel sentiment vous avez à amener l'électricité dans des endroits où il n'y en a pas jusque-là, que ce soit ici ou ailleurs en Casamance?
C'est une fierté pour moi, sincèrement, parce qu'actuellement, on est en 2016. Quand si tu as l'habitude d'être dans un milieu où il y a l'électricité, et si tu changes, on dirait que tu es dans un tombeau. C'est vraiment dur, c'est pénible. Et moi, ma philosophie est que tout le monde doit être au même pied d'égalité d'information, surtout les enfants. Ça, l'électricité est vraiment primordiale. Et vraiment, ça rebousse vraiment ça, l'éducation des enfants. Et surtout nous, les femmes aussi. Nous, quand il y a l'électricité, on est plus enthousiaste que quand on est dans le noir. C'est pourquoi c'est une fierté. Quand on me demande vraiment d'aller dans un milieu où c'est reculé, c'est une fierté pour moi.
C'est vraiment joli parce qu'en regardant l'installation de l'eau, c'est vraiment sympa.
Okay.
Oui, c'est pour cela que je veux m'inscrire pour avoir de l'énergie chez moi.
C'est bien. Et votre numéro de téléphone?
C'est vous, c'est prenez place.
Prenez place. Okay.
Mon numéro de téléphone, c'est 78.
Thomas Samuel, nous sommes donc à New Moon. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas là par hasard pour installer ces lampadaires solaires. Vous êtes le patron d'une entreprise bordelaise qui s'appelle Suna Design, qui précisément construit ces lampadaires que vous êtes en train d'installer ici. Le système Suna Design, c'est aussi un système de prépaiement, ce qui est assez novateur en la matière. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans la téléphonie mobile. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est un moyen de prouver que même les pauvres peuvent payer l'électricité en Afrique et un peu partout dans le monde d'ailleurs ?
Le parallèle avec la téléphonie mobile est excellent. On voit qu'ici, il y a un taux de pénétration du mobile qui est proche de 100%. Tous les adultes ont un téléphone portable et ça s'est fait dans les 5-10 dernières années. Tous les Africains aujourd'hui, ou à 99%, prépayent leur crédit téléphonique. C'est-à-dire qu'avec une petite carte à gratter, ils vont acheter 500 francs ou 1000 francs de communication qu'ils vont consommer et quand leur crédit est fini, ça se coupe. Et c'est exactement le même système qu'on utilise avec du crédit énergie où des utilisateurs des systèmes d'énergie Suna Design vont créditer leur compte d'un jour, une semaine, un mois, et à expiration de leur crédit, ils recevront une notification par SMS en disant « Votre crédit se finit demain, pensez à recharger pour que la lumière reste allumée chez vous. » On crée un premier historique de paiement pour des populations qui ne sont ni bancarisées, ni éduquées à payer un service énergétique régulièrement. Du coup, on accompagne ces bénéficiaires dans un apprentissage, évidemment, de l'énergie, mais aussi des paiements réguliers.
Vous êtes en train de faire des consommateurs. Votre idéal, c'est d'en faire des consommateurs raisonnables.
Oui, notre idéal, c'est vraiment d'avoir une approche là aussi vertueuse en minimisant les consommations des utilisateurs pour nous permettre de minimiser la production. Du coup, on leur fournit les meilleures lampes LED du marché. Lorsque l'on les accompagnera vers d'autres produits plus consommateurs, on aura aussi cette approche d'avoir le meilleur matériel possible, le plus durable, celui qui consomme le moins. Il y a une très grande différence entre frugalité et low cost. Un produit low cost va être fait pour être vendu le moins cher possible. Des produits que nous développons avec cette approche frugale vont être développés pour coûter le moins cher possible à l'utilisation. Étant aussi fournisseur de la partie énergie, ça nous arrange que le matériel soit d'extrêmement bonne qualité pour devoir lui fournir le moins d'énergie possible. Et c'est vraiment à contre-courant du marché énergétique tel qu'il s'est structuré, où on surproduit une énergie subventionnée pour alimenter des appareils de mauvaise qualité, mal fabriqués, en très grande quantité.
À New Moon, parce qu'il faut discuter maintenant des projets. L'électrification via ces lampadaires solaires est en cours, elle devrait progresser dans le village. Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça, ce sont les questions que se posent les femmes. Elles ont décidé d'y réfléchir un peu toutes ensemble, ce qui leur ferait une petite forme d'entreprise. On va essayer de se renseigner là-dessus.
Ça va?
Ça va bien, et vous?
Ça va, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il sort des discussions? Le prénom, c'est Hortense, c'est ça?
Oui, c'est Hortense. Tu sais, ici, les femmes de Nyomoun, on ne peut pas travailler. Si tu n'as pas de pirogue pour aller à la mer, pour cesser les coquillages ou les huîtres, tu ne travailles pas. Tu te restes comme ça, en chemin.
Et donc, vos projets consistent en quoi?
Le projet, on veut une place pour avoir des frigos, des congélateurs, pour faire des pains de glace, pour vendre les pêcheurs qui vont à la mer, qui cherchent des poissons. Au lieu d'aller à Jincha, tu cherches ça ici.
Si vous faites de la glace, ce sera pour vous une source de revenus?
Oui, une source de revenus. On est en train d'essayer pour réunir un compte commun, oui, pour toutes les femmes de Nyomoun. Je lance le message, les partenaires pour des femmes de Nyomoun.
À votre avis, combien il vous faut mettre chacune en plus d'un partenaire pour arriver à votre projet?
C'est 6 000 chacun. Toute l'année, c'est 6 000 chacun. 500 francs par mois. Peut-être on est 159 comme ça, ou 160 ans.
Donc ça fait une belle somme si vous réunissez tout ça, mais ce n'est pas forcément suffisant.
Ce n'est pas forcément suffisant. On veut quelqu'un qui va nous aider, parce qu'on n'a pas assez de l'argent.
Pour fabriquer de la glace, il faut de l'eau.
Il faut de l'eau. L'eau là, on va chercher de l'eau, soit là-bas, sur les puits, soit on met un sous-citerne.
Une citerne, enterrée.
Oui, enterrée, pour avoir beaucoup de l'eau dedans. C'est l'hivernance qui va nous donner ça.
C'est la saison des pluies.
Oui, c'est la saison des pluies.
Est-ce que c'est la première fois que vous avez, vous, les femmes, un projet en commun comme ça?
Oui, c'est la première fois.
Vous êtes toutes projet, d'accord?
Oui, on est tous d'accord.
Oui, on est tous d'accord. On est tous d'accord.
C'est Drew Mensa, bonjour.
Bonjour.
Alors, il se trouve que vous êtes étudiant en master innovation par le design à l'ENSI, l'École nationale supérieure de la création industrielle. Vous êtes en ce moment au Sénégal, dans cette région de la Casamance, sur des projets précis. Je voulais d'abord votre regard sur les différents systèmes d'électrification via le solaire en zone rurale. Il y a les centrales, en gros, qui commencent à voir le jour. Il y a des systèmes avec des petits panneaux solaires individuels. Et puis, il y a ces systèmes de lampadaires. Voilà. Quel est le bon choix? Est-ce qu'il y a des bons choix, d'abord?
Il n'y a aucun bon choix et il n'y a aucun mauvais choix. Tout dépend, en fait, de la stratégie adoptée et de la réflexion sur qu'est-ce que cette énergie permet de réaliser dans les milieux ruraux en Afrique. Quand on est en Casamance, on va avoir un mode de vie dit frugal qui va permettre aussi de pouvoir utiliser un minimum d'énergie. Malgré tout, on en a besoin, comme partout, et les gens aspirent à en avoir aussi plus. Et donc, c'est nécessaire de trouver des solutions par rapport à cela. Mais ces solutions doivent être adaptées. Est-ce que chaque personne a besoin, par exemple, d'avoir un congélateur chez soi? Est-ce que la lumière est un droit? Et si c'est un droit, c'est un droit qui, dans ce cas-là, doit avoir une valeur. Même si cette valeur n'est pas forcément monétisée, elle doit être considérée comme telle par la personne qui le reçoit.
Alors après, on pourrait vous répliquer, mais après tout, les Africains aussi peuvent prétendre à des choses plus individualistes. Ils peuvent vouloir avoir un frigo, ils peuvent vouloir regarder la télé et avoir une vie qui ressemble un peu à la vie européenne, plus individualiste.
Et je dirais que vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas projeter trop sur l'Afrique. Et il s'agit davantage d'accompagner les populations vers des solutions qui leur conviennent. S'ils adoptent une télé, c'est pour s'informer, découvrir le reste du monde. Les abonnements, par exemple, pour Canal+, se font à 90% vers des chaînes qui sont africaines. Donc c'est aussi connaître son continent. C'est en réfléchissant sur les usages qu'on peut aussi accompagner ces usages de manière un petit peu plus sophistiquée.
C'est Romansa, est-ce que ce système de nanogrid, de lampadaire solaire avec ce réseau derrière, est à même de rassurer aussi un peu l'Europe et les pays développés qui voient dans le développement de l'Afrique une, une source de pollution supplémentaire incommensurable, on va dire.
La consommation en Afrique est fondamentalement frugale. Et il y a des thèses qui ont montré que même si on part sur un développement à l'européenne, compte tenu de l'évolution et de l'avancement technologique, elle sera moins importante que celle que produisaient les Européens à l'époque. Donc le premier devoir, quand il s'agit de réduire les consommations d'énergie, doit se faire en Europe et non pas en Afrique.
Elle peut devenir modèle, cette société africaine, pour le coup.
Elle peut devenir modèle parce que, justement, elle optimise l'énergie par son système frugal. Elle met en place des valeurs qui peuvent accompagner l'économie et donc changer comment faire avec le moins possible, le mieux possible. Donc on a des optimisations qui sont là, qui correspondent à des modèles économiques, mais qui correspondent aussi à des modèles sociaux et des modèles culturels.
Casamance, le temple du solaire, c'était un reportage de Béatrice Duguay, déjà diffusé le 8 mai dernier. Jean-Marie Porcher en a assuré la prise de son, réalisation Anne Lioro, assistée de Marion Philippe et Stéphane Combe, mixage Philippe Mercher. L'équipe d'Interception vous souhaite une excellente année 2017. À la semaine prochaine.